Comme tu veux, si tu veux.
C'est bon, nous y sommes. J'ai mis l'enregistrement en route, donc on va pouvoir y aller. Voilà, donc on se retrouve dans des conditions un peu particulières. On va essayer de faire en sorte que ce soit le plus facile pour tout le monde. Donc nous en sommes à notre troisième cours, troisième rencontre. Dans un premier temps, une première rencontre, nous avions vu un peu les conditions du croire aujourd'hui, les conditions de la foi. La semaine dernière, nous avons vu comment, enfin la fois dernière, nous avons vu comment la foi en un Dieu unique s'est constituée dans l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que nous dit cette foi du peuple d'Israël sur ce qu'est la foi en elle-même. Et du coup, ce cours s'intitule La foi, une affirmation ou une question, point d'interrogation. Alors attendez, voilà. En introduction, je voudrais montrer en quoi la crise est une chance pour la foi. C'est une expression qui a était d'ailleurs le titre d'un ouvrage du doyen actuel de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Il a écrit un petit livre qui s'appelle La crise, une chance pour la foi. Puisque nous avions terminé le cours dernier sur une crise du peuple d'Israël, hein, qui était son exil à Babylone, et nous allons y revenir. Une crise profonde, une crise dans l'histoire, une crise de son histoire. Et que c'est à l'intérieur de cette crise que le peuple d'Israël va opérer une sorte d'approfondissement spirituel de sa relation à Dieu. Si on regarde du côté du sens étymologique du mot crise, on se rend compte qu'il renvoie à la philosophie grecque, qu'il entend au sens d'un jugement critique, contrairement à son sens moderne, qui le pense en termes de rupture ou de troubles dangereux. La crise n'a donc pas, dans la philosophie grecque, une connotation forcément négative. Bien au contraire. C'est le moment, justement, d'un retour critique sur son histoire, sur son expérience. C'est, on pourrait dire, un moment de relecture. Un moment pour faire le point. La philosophie de l'histoire va reprendre le sens du mot crise pour indiquer que l'avenir ne peut pas être seulement la simple continuation du passé. Il y a quelque chose à changer. Il y a un moment critique où se pose la question, pouvons-nous continuer comme avant? Il se trouve qu'on réemploie aujourd'hui beaucoup ce terme du mot crise. Les crises sanitaires, les crises économiques, les crises politiques. Et nous devrions certainement retrouver cette étymologie du mot crise comme moment critique qui nous invite à voir un avenir qui n'est pas simplement la simple continuité du passé. Si nous pensons la crise dans l'horizon de la foi, eh bien celle-ci indique la possibilité du surgissement d'une nouveauté profonde et imprévisible. Une nouveauté qui implique un changement profond d'existence. La crise a donc un sens religieux aussi, qui est lié à la notion de conversion, conversion devant une nouveauté que nous ne pouvions prévoir. Nous avons fait la dernière fois tout un itinéraire de la foi du peuple d'Israël, de son rapport au Dieu, au pluriel, puis à un Dieu parmi les dieux, pour parvenir à la foi en un Dieu unique, décrit dans les termes de l'Alliance. C'est une crise profonde dans l'histoire de ce peuple d'Israël qui laisse surgir une nouveauté radicale. Le peuple d'Israël est invité à un passage. Le passage de la construction d'un Dieu protecteur de la cité au surgissement dans cette histoire, dans son histoire, d'un Dieu qui fait alliance. Le Dieu d'Israël s'est révélé ne pas être simplement le Dieu protecteur du royaume du sud, puisque celui-ci a été envahi par la puissance babylonienne, et que l'élite du temple se retrouve en exil à Babylone. Cette crise fondamentale, nous l'avons située autour de l'année 547, qui est l'année de la destruction du temple de Jérusalem, 547 avant Jésus-Christ. Sur la diapo que vous avez devant vous, nous retrouvons cette expérience du peuple d'Israël, voilà, que nous retrouvons également, bien sûr, dans les psaumes. Vous avez sur le plan que je vous ai envoyé, je vais vous le remettre, attendez quelques instants, je vais vous le remettre, voilà, c'est pas là, il arrive. J'ai remis ce psaume 136, hein, qui finalement reflète cette expérience que vit l'Israël en exil à Babylone. Voilà. Nous pouvons peut-être relire ce psaume. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Hein, cette expérience que sur cette terre étrangère où ils sont en exil, ils ne peuvent plus s'adresser, prier, chanter au Dieu dont on avait vu la dernière fois qu'ils avaient introduit dans le temple de Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est le psaume qui suit, le psaume 137, qui opère déjà un changement dans ce rapport à ce Dieu d'Israël. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. On voit entre deux psaumes hein, l'évolution. L'évolution d'abord d'un Dieu qui n'est plus circonscrit au Dieu de Jérusalem. Tous les rois peuvent lui rendre grâce. Et d'ailleurs la première des actions que le peuple peut faire à l'égard de Dieu, c'est rendre grâce. Hein, ce qui montre bien que ce qui est premier, c'est la grâce qui est donnée, et que je peux rendre. Mais ce qui est premier, c'est le don de Dieu. Et on avait vu comment la dernière fois, dans l'idée d'alliance qui va être introduit par la relecture Deutéronomie 587, eh bien, il y a d'abord l'accueil du don de Dieu. C'est plus tous les sacrifices que je dois accomplir pour montrer à ce Dieu que oui, il est vraiment mon protecteur et que parce qu'il est mon protecteur, je lui rends tous ces sacrifices. Non, ce qui est premier, c'est l'accueil de ce don gratuit. Et je te rends grâce. L'échange se fait à partir du don premier de Dieu. Le temple sacré, il est plus simplement à Jérusalem. Vers ton temple sacré, il est plus simplement défini comme étant à Jérusalem, mais il peut être partout. Le nom de Dieu peut être reconnu par tout le monde. Et on a une sorte d'universalisation de cette figure de Dieu au milieu même de cette crise. Et d'un Dieu qui n'est plus enfin, simplement un Dieu lointain, mais un Dieu tout proche. Hein. Le Seigneur fait tout pour moi. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains. Hein. Donc il est déjà un Dieu qui a figure quasi humaine, puisqu'il est, il est présent par l'œuvre de ses mains. Hein. Donc on voit qu'au cœur de cette crise profonde, le peuple d'Israël va pouvoir s'ajuster à la figure de Dieu. Et cela va nous indiquer ce qu'est vraiment la foi dans dans sa profondeur la plus essentielle. Alors je vous propose de marcher en trois temps dans notre rencontre de ce jour. Nous allons d'abord voir comment la foi nous invite à habiter, relire et vivre la crise comme une ouverture radicale. Ça, ce sera le premier temps.
Père Tassi,
Oui.
oui, bonjour,
Bonjour.
excusez-moi.
Oui.
Je suis Anna, c'est
Oui.
normal? Je n'ai plus d'image, rien du tout.
Vous n'avez plus d'image. Normalement, vous devez avoir comme image les diapos, là, actuellement.
Non, je les avais au départ, après je n'ai plus rien, j'ai votre micro est réactivé,
Ouais.
votre vidéo est arrêtée.
Alors attendez, je vais retrouver. Tac.
Demain, non? Bien.
Vous avez
Je
tout?
n'ai pas encore
Alors
trouvé.
attendez. Je vais sortir un instant du partage d'écran.
Normalement, vous avez en bas à gauche,
Voilà.
en de Zoom réunion, vous avez un truc qui le micro et de l'autre côté, vous avez un
Petite vidéo.
démarrer vidéo. Voilà.
Voilà. Il
Non,
faut.
et moi, ce que j'ai maintenant sur l'écran, c'est mode pilotage sécurisé avec le dessin du micro. Par contre, en bas, je n'ai rien, c'est écrit tout simplement. Et votre micro est réactivé, fini de parler. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez cliquer sur le bandeau en haut de Zoom Réunion ou, et normalement, ça va vous afficher ce qu'il y a en bas. Donc, je ressors pour le faire parce que
Non,
j'ai pas.
non, ah bon? Non, 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 vous n'avez pas besoin de ressortir.
J'ai pas de. Comment cet écran?
Normalement, si vous
C'est tout
êtes.
simple. Tout en haut, à gauche, j'ai le dessin du micro. À côté, mode pilotage sécurisé et quitté. Et au centre de l'écran, j'ai votre micro est réactivé. Votre vidéo est arrêtée.
Oui, c'est ça.
Ben, qu'elle soit arrêtée. La vôtre, oui, c'est normal pour l'instant.
Ah, c'est
On
normal.
perd du temps là.
La vôtre, oui, elle est arrêtée, c'est normal. Après,
Ah.
normalement, vous avez sur l'écran uniquement ma. Vous devez avoir normalement les diapos sur mon écran, sur votre écran. Mais.
Non, j'ai pas de diapo
Ouais.
du tout.
Bon, mais je vais. Dans ce cas-là, sinon, vous les avez par ailleurs. Je vais faire référence à où j'en suis dans la diapo.
D'accord.
Donc,
D'accord.
ouais. Donc j'avance, on en est au, donc nous allons entrer dans le premièrement, habiter, relire et vivre la crise comme ouverture radicale. Finalement, la foi est une invitation à habiter et à vivre la crise comme un appel justement à se tourner vers le vrai Dieu. Par trois moyens, l'introspection, la rétrospection et la prospection. D'abord, l'expérience de l'introspection. Le peuple d'Israël va faire cette expérience au milieu de la crise qu'il vit, de la tragédie qu'il vit à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est dans les conditions de l'histoire que se vit cette expérience de foi, pas en dehors, dans les conditions de l'histoire. C'est quoi cette histoire? Bien, d'un point de vue historique, au Moyen-Orient, le 6e siècle avant Jésus-Christ est dominé par le jeu politique des grands empires expansionnistes. On assiste en particulier à la montée du pouvoir babylonien, une montée en puissance qui s'observe depuis le 7e siècle. En 612, Ninive, la grande ville Ninive, cité-état du Nord, a été prise. Et en 605, Nabuchodonosor a scellé la ruine de l'Assyrie à la bataille de Carchemish. Je vous écris Carchemish. Voilà. Nabuchodonosor va régner jusqu'à sa mort en 562 et va laisser un souvenir de prestigieux, de bâtisseur, plus d'ailleurs que de concurrent. Bâtisseur notamment de la grande ville de Babylone, une cité grandiose qui chante la gloire du dieu Marduk, que nous avions déjà vu la fois dernière, hein, autant que celle de Nabuchodonosor. Vous le voyez sur l'image à l'écran, vous avez un temple au dieu Marduk. Et qui est aussi finalement à la gloire de ce dieu, mais aussi à la gloire du grand Nabuchodonosor qui a vaincu les puissances étrangères et qui a fondé un empire babylonien très puissant. Ça, c'est le contexte historique du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte qu'Israël va devoir faire un acte d'introspection. Alors comment va-t-elle le faire, cet acte d'introspection? Eh bien parce qu'il y a des personnes qui vont l'aider. Et parmi ces personnes, bien sûr, les principaux sont les prophètes. Le grand prophète de l'exil, c'est le prophète Isaïe. Le livre d'Isaïe est constitué on pourrait dire, de trois volumes dans ce livre. Et le temps de l'exil, c'est ce qu'on appelle le livre du Deutéro-Isaïe, hein, c'est le deuxième Isaïe, qui commence à partir du chapitre 40. À partir du chapitre 40, eh bien, c'est cet exercice de relecture, d'introspection de cette crise. Là, on pourrait dire que ce qui nous manque souvent dans nos... Dans nos sociétés et dans ce que nous vivons d'historique, ce sont ces temps de relecture des crises. Et celle que propose Isaïe, elle commence vraiment même à l'intérieur même de la crise. Il n'attend pas des années après la crise pour la relire, c'est à l'intérieur même de cette crise, mais est-ce que nous sommes capables de la relire? Bien sûr, avec une demande du peuple d'en sortir. Mais il n'y aura pas de possibilité d'en sortir si nous n'avons pas compris pourquoi nous y sommes. C'est l'objectif d'Isaïe, d'essayer de faire réfléchir le peuple sur le pourquoi de cette crise et sur ce qui et sur le comment réajuster sa vie devant Dieu. C'est pour ça que je vous ai mis donc cet extrait du livre d'Isaïe au chapitre 40, qui est le début de cette relecture. Au tout début de ce qu'on appelle le Deutéro Isaïe, le deuxième Isaïe. Vous l'avez sur le plan que vous avez reçu. Je vous le lis. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit « Proclame !» Et je dis « Que vais-je proclamer ?» Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail, avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Alors nous allons reprendre ce texte, mais on m'envoie un message pour me dire qu'il y a des personnes en attente qui n'arrivent pas à rentrer. Alors attendez, je vais juste... C'est ça.
Ah.
Voilà. Bon, bonjour à ceux qui nous rejoignent, excusez-nous. Alors, ouais. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Excusez-nous, là, il y avait un petit problème, vous étiez en attente. Voilà. Bon, on a enregistré tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, vous aurez l'enregistrement.
Vidéo ?
Audio, audio. L'enregistrement audio. Ouais.
Dommage.
Bon, en vidéo, il n'y a pas grand-chose à voir, sauf ma tête, mais...
Ah, c'est déjà ça.
Ouais. Nous en sommes au premier point. Si vous avez le plan, alors je vais vous le remettre aussi. Voilà.
Je n'ai pas eu le plan, en tout cas.
Je ne l'ai pas eu. Voilà, nous en sommes là.
Merci.
Nous avons... Pardon ?
Allô ?
Oui.
Comment ça se fait quand on était en attente ?
Ben, je sais pas comment ça se fait. Ouais, c'est-à-dire que je suis pas encore un professionnel de Zoom, mais apparemment, il faut que je voie un réglage qui fait que vous puissiez rentrer automatiquement sans que vous soyez en attente. Mais voilà, c'est un petit réglage qu'il faut trouver encore. Je vais le trouver. Voilà, donc nous avons introduit le cours sur la question de la crise, mais vous aurez tous les éléments sur l'espace numérique. Vous avez le plan que vous allez pouvoir retrouver. Et nous en sommes au premier point, habiter et relire la crise. Nous sommes en train de voir comment l'expérience de Dieu par le peuple d'Israël est une expérience qui se vit au milieu d'une crise dans l'histoire, celle de son exil à Babylone. Et cette crise que vit le peuple d'Israël l'invite à un triple exercice, un exercice d'introspection, de rétrospection et de prospection. Nous en sommes à l'exercice d'introspection. Et je montrais comment le prophète Isaïe va être un acteur clé de cette introspection, va aider le peuple tout entier. Vous savez, Isaïe, il est proche de la cour royale d'Israël. Donc il est quelqu'un d'important. Et il va aider l'ensemble du peuple à relire cette crise. Quasiment au moment même de cette crise. Et cette relecture, nous la trouvons dans la deuxième partie du livre d'Isaïe qui commence au chapitre 40. Et nous venons de lire le tout début de ce deuxième livre d'Isaïe, de ce chapitre 40. Vous avez le texte qui apparaît à votre écran. Dans ce texte, quelqu'un se fait l'écho d'une invitation de Dieu à consoler son peuple. On ne sait pas qui est ce quelqu'un, hein, il n'est pas défini dans le texte, mais en tout cas, quelqu'un se fait l'écho d'une invitation de Dieu, hein, consoler mon peuple, dit votre Dieu, une invitation à une consolation. Le destinataire de cette exhortation n'est pas précisé lui non plus. On ne sait pas à qui s'adresse cette invitation. Mais il est désigné au pluriel. Consoler. Ce qui semble évoquer un groupe collectif. La voix presse de parler au cœur de Jérusalem. Parler au cœur de Jérusalem. Et là, il faut s'entendre sur l'acception biblique du mot cœur. Quand on dit cœur dans la Bible, on ne dit pas simplement le sentiment, mais on dit le fait de toucher l'intelligence et la volonté. Le cœur dans la Bible, c'est le lieu de l'unité de trois dimensions, le sentiment, l'intelligence et la volonté. Et quand on dit parler au cœur de Jérusalem, c'est vraiment toucher le sentiment, l'intelligence et la volonté du peuple d'Israël. Donc là, on est dans une invitation à toucher ce qu'il y a de plus profond dans l'expérience d'Israël. À partir du verset 3 dans ce texte, on nous dit qu'une voix proclame, semble-t-il une seconde voix, mais toujours aussi anonyme. Qui confie également à un interlocuteur anonyme, mais toujours collectif, la mission d'abaisser les montagnes pour ouvrir la route que Yahvé va emprunter pour venir préparer le chemin du Seigneur. Nous allons bientôt l'entendre dans la liturgie de l'Avent. Préparer le chemin du Seigneur. Et ça, abaisser la route, abaisser, hein, préparer, tracer droit, voilà. Que toute colline soit abaissée. Et là, on ne comprend cela que si on a lu le premier livre d'Isaïe, où on nous parlait des montagnes d'orgueil. Il y avait des montagnes d'orgueil qui empêchaient d'entendre la voix de Dieu. Il faut les abaisser. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est que les puissances célestes sont conviées à agir en ce temps où Dieu va manifester sa gloire. Il y a un nouvel ordre qui est formulé au verset 6 de ce texte. Une voix dit « proclame ». Qui consiste à rappeler cette vérité assez commune que l'homme est aussi fragile que la fleur des champs. Pour, en contraste, montrer la solidité inébranlable de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui, au verset 8, nous est dit « subsister pour toujours ». Elle demeure pour toujours. Une sorte de contraste entre la fragilité humaine et la force de la parole de Dieu. Et puis de ce qui est changeant dans l'humain et de ce qui demeure en Dieu. Au verset 9, l'exhortation se poursuit en désignant maintenant un interlocuteur en la personne d'une messagère. Une messagère qui est porteuse de la bonne nouvelle pour Sion. Cette bonne nouvelle, c'est la venue de Dieu. Et je vous ai mis... la traduction de la Septante, c'est-à-dire de la traduction grecque de la Bible, hein, toi qui portes la bonne nouvelle, l'Evangelion, qui, bien sûr, nous renvoie à l'Évangile. La bonne nouvelle. Vous voyez que la consolation dont il est question dans ce texte d'Isaïe, dans cet exercice d'introspection que... Isaïe propose au peuple d'Israël, c'est de laisser Dieu venir lui-même. La consolation, c'est l'annonce d'un Dieu qui vient. Mais qui ne peut venir que si le terrain est préparé à cette venue. Que si les montagnes d'orgueil sont abaissées. Que si l'humain reconnaît sa fragilité. On peut noter à la fin la manière dont Dieu vient, qui est pour nous intéressante. Hein. Dieu vient tel un berger qui fait paître son troupeau. C'est-à-dire un Dieu qui prend soin, qui rassemble, qui porte sur son cœur, qui conduit, qui donne la vie, qui mène les brebis qui allaitent. C'est un Dieu qui redonne vie. Vous voyez, cette expérience, elle est faite au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est vraiment une expérience d'introspection pour retrouver la juste figure de Dieu et la juste relation que l'homme peut établir avec ce Dieu-là d'Israël. S'il n'est plus le Dieu protecteur qui demande sans cesse des sacrifices pour pouvoir protéger, Mais qui est-il vraiment, puisque nous sommes en exil à Babylone, que nous n'avons plus de temple pour l'adorer? Alors, nous pouvons peut-être à ce moment-là retrouver la juste figure de Dieu. Hein? Exercice d'introspection, c'est la première étape d'Israël au milieu de cette crise. La deuxième étape, c'est celle d'une rétrospection. Une rétrospection pour relire l'histoire à partir de la crise comme révélatrice. On va relire notre histoire parce que ce moment de crise, il est révélateur de peut-être ce que nous n'avions pas vu auparavant. Nous l'avions mal vu ou nous ne l'avions pas vu. Mais c'est parce que nous vivons cette crise-là que nous pouvons enfin le voir. D'où la relecture biblique qui va s'opérer et un moment clé de l'histoire biblique. On ne peut pas dire que la Bible a été inventée à ce moment-là. Mais on va faire tout un travail de relecture des matériaux. Dont que nous avons en notre possession. Quels sont ces matériaux qui font, on va dire, le patrimoine du peuple d'Israël? Eh bien, ce sont des traditions mémorisées. Des traditions qui se sont transmises oralement, mais qui, au fur et à mesure, ont été mémorisées. Des noms de lieux et de personnes. Des légendes associées à ces lieux et à ces personnes. Des mythes. Des généalogies qui sont attachées à ces noms. Des fragments de loi. D'oracles prophétiques. Tout cela, nous le savons grâce aux recherches archéologiques récentes qui ont pu exhumer ce patrimoine. Mais aussi tout un patrimoine littéraire qui est constitué par les scribes des palais royaux qui tenaient à jour les annales des royaumes. Les scribes qui sont associés à la cour royale, eh bien, tiennent des annales des royaumes où sont notés les récits historiques, des textes législatifs, mais aussi on y attache des textes prophétiques, des chants liturgiques, enfin des proverbes royaux. Tout cela constitue une documentation, mais cette documentation qui existait jusqu'au VIe siècle, qui s'est constituée jusqu'au VIe siècle, eh bien elle a été entièrement relue, repensée, corrigée, compilée, complétée aussi, et puis réorganisée, à cette époque de l'exil et au moment du retour de l'exil. Vous voyez, là, on est dans la phase de rétrospection, mais c'est une rétrospection qui est créatrice. C'est pas simplement relire son passé pour relire son passé. C'est reprendre tous les matériaux du passé pour en opérer une relecture, des corrections, une réorganisation pour apporter des compléments. Donc, pour prendre des exemples, voilà, certainement que le nom d'Abraham, il est connu, le nom de Moïse, il est connu. Alors, nom réel ou nom légendaire ou nom mythologique, ça, voilà, c'est quelque chose qui peut difficilement être tranché, mais on a des noms de personnes, On a des bouts de récits, on a des proverbes, voilà, qui sont attachés à ces personnes-là. On a leur généalogie, voilà, qui est connue. Mais tout cela va être réorganisé et repensé à l'époque de l'exil. Finalement, il s'agit d'interroger le sens de l'histoire des deux royaumes depuis leurs origines. Royaume du Nord, Royaume du Sud. Ce qui ouvre la voie à une reconstruction de l'histoire d'Israël. Et ce qui va donner toute une structure narrative, une structure du récit biblique. Et d'ailleurs, on peut penser que cette structure du récit biblique, elle est influencée par des structures de récit qu'on trouve dans les modèles assyriens et babyloniens. Donc c'est pas pour rien que c'est pendant l'exil, parce que pendant l'exil, on va voir la manière dont des récits des royaumes assyriens et babyloniens sont construits. Et on va s'inspirer de cela pour la structure narrative de la Bible. Cette rétrospection, c'est un moment pour revisiter l'histoire d'Israël, certes, mais on va bien en deçà de toute origine connue. D'où le fait qu'à ce moment-là, par exemple, on va vers le mythe des origines, le mythe de la création, le livre de la Genèse. Pourquoi on fait ça? Eh bien, pour donner un sens qui doit ranimer l'espérance des exilés. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu dans votre histoire, cette lente relation que vous avez instituée avec le Dieu Yahvé, elle ne s'arrête pas de manière insensée à la destruction du temple de Jérusalem en 587. Elle a un sens dans une histoire d'alliance entre Dieu et vous. Cette relecture, elle va aussi guider la réinstallation des expatriés. Et elle va orienter leur avenir en les préservant à jamais de ces malheurs passés. Et c'est ainsi que l'on va repenser à partir de ces reconstructions, une histoire qui a du sens. Par exemple, le voyage d'Abraham de Chaldée en Palestine, qui traçait la voie à suivre. Il y a une voie de l'alliance, il y a une voie de la confiance à l'appel de Dieu, d'une réponse à cet appel, d'un risque à prendre avec Dieu. C'est le voyage d'Abraham depuis Ur en Chaldée jusqu'au pays de Canaan. La conquête de Canaan par Josué justifie la prise de possession de tout le pays et sa mise à l'abri des souillures de l'étranger. Dieu a donné une terre à Israël. La loi donnée à Moïse fonde un pacte d'alliance avec Yahvé. Cette loi structure le mode de vie d'Israël au milieu des nations. Tout ça, ça a du sens. Ça a du sens dans cette histoire d'alliance de Dieu avec l'humanité. Cette rétrospection est donc au service de la redécouverte de l'identité du peuple de Dieu. Mais en même temps, cette relecture va être la cause d'une mutation de sa foi en Dieu et de son idée de salut. Dont le christianisme sera tributaire quelques siècles plus tard. Dieu ne sauve plus simplement parce que nous sommes, parce que il est jaloux des autres dieux, et que comme il est jaloux des autres dieux, eh bien, il faut le contenter avec tout ce qu'on peut lui offrir. Non, Dieu a tissé une alliance dont même les événements les plus tragiques du peuple ne peuvent abîmer, éteindre cette fidélité de Dieu, mais qui appelle en retour la fidélité du peuple. D'où cette deuxième dimension de toute foi authentique, qui est cette capacité de faire mémoire. Et c'est pourquoi au cœur de la foi chrétienne elle-même, la célébration qui est au cœur de la foi chrétienne est un acte de faire mémoire. Vous trouverez sur le plan, même si vous ne l'avez pas encore, vous trouverez sur le plan que je vous ai transmis, un extrait de la lettre encyclique du pape François, La lumière de la foi, pour redire l'importance de cette relecture de l'histoire, pour y voir la trace de Dieu. Numéro 8 de l'encyclique. La foi nous ouvre le chemin et accompagne nos pas dans l'histoire. C'est pourquoi, si nous voulons comprendre ce qu'est la foi, nous devons raconter son parcours, la route des hommes croyants, dont témoigne en premier lieu l'Ancien Testament. Une place particulière revient à Abraham, notre père dans la foi. Dans sa vie se produit un fait bouleversant. Dieu lui adresse sa parole. Il se révèle comme un Dieu qui parle et qui l'appelle par son nom. La foi est liée à l'écoute. Abraham ne voit pas Dieu, mais il entend sa voix. De cette façon, la foi prend un caractère personnel. Dieu se trouve être ainsi non le Dieu d'un lieu, et pas même le Dieu lié à un temps sacré spécifique, mais le Dieu d'une personne, précisément le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, capable d'entrer en contact avec l'homme et d'établir une alliance avec lui. La foi est la réponse à une parole qui interpelle personnellement, à un toi qui nous appelle par notre nom. Cette expérience de foi, c'est par cette introspection que le peuple d'Israël, pendant l'exil, est contraint de vivre, qu'il va pouvoir arriver à cette expérience-là. Un Dieu personnel, un Dieu dans mon histoire. Un Dieu qui m'adresse la parole, à qui je peux répondre. Me voici. Enfin, troisième étape au milieu de cette crise profonde, eh bien, c'est l'étape de la prospection. La prospection est fondée sur la confiance que Dieu vient sauver son peuple.
Vous fassiez avancer le texte.
Dieu vient sauver son peuple. Non seulement Dieu est, Mais c'est là l'expérience que va faire le peuple d'Israël dans son exil. Dieu vient. C'est le texte d'Isaïe que nous avons lu tout à l'heure. Dieu n'est pas seulement celui qui est, il est celui qui vient. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que on va à nouveau relire quand on va reprendre l'histoire de Moïse et de l'Exode. Quand Moïse va interroger la voix de Yahvé au sein du buisson ardent, et qui lui demande « Mais que leur dirais-je? Qui es-tu ?» La voix répond « Je suis celui qui serait. » Bon, certains aiment le traduire par « Je suis celui qui suis », mais le « Je suis celui qui suis » pourrait être aussi traduit par « Je suis celui qui serait. » Qui serait là avec toi dans ton épreuve. Qui serait là avec toi pour te faire sortir de cette terre d'esclavage. Qui serait là avec toi pour te donner la terre promise. Pour le dire autrement, le Dieu de la promesse. Fidèle à sa promesse. Fidèle à cette promesse d'accompagner son peuple et de le faire vivre. Il est intervenu dans l'histoire, mais surtout, il va intervenir dans l'histoire. Une histoire marquée par des crises à répétition. Mais une histoire où surgit sans cesse une nouveauté inimaginable. Et ça, c'est toujours ce qui est difficile dans toute crise, hein, celle que nous vivons. Peut en être un bon exemple, c'est que elle nous met devant l'imprévisible. Or Dieu vient comme l'imprévu dans l'imprévisible. C'est ce qu'on pourrait finalement, si on avait une définition à donner au mot grâce, grâce de Dieu, eh bien c'est l'imprévisible don. Ce que nous n'avions pas prévu. Au milieu même de notre de la crise. Un autre prophète de l'exil est là pour justement remettre le peuple devant cette promesse de l'imprévisible don. C'est le prophète Ézéchiel. Vous avez également le texte sur le plan. Ézéchiel 36, chapitre 36, versets 24 à 28. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Le Dieu de l'Alliance. C'est le Dieu de la fidélité dans toute l'histoire du peuple. C'est le Dieu du présent, mais c'est aussi ce que nous indique ce texte, le Dieu de l'avenir. Celui qui a été présent le sera encore. Pourquoi? Pour plus de vie. Mais il le sera aussi en invitant à une conversion des cœurs. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. habiter la crise pour le peuple d'Israël en exil, c'est également accepter répondre à la fidélité de Dieu dans l'avenir. Être capable de se projeter avec lui. Mais se projeter d'une manière nouvelle. Renouvelée. En accueillant l'action même de Dieu dans le cœur des hommes. Vous voyez que je vais reprendre mon propos du début. Hein. La crise, elle est une chance pour la foi. Elle est une chance pour la foi si elle génère cet exercice d'introspection, de rétrospection et de prospection. J'en arrive à mon petit B, qui est un peu un excursus pour comprendre la place et le rôle de l'écriture dans cet ajustement entre Dieu et l'homme. Puisque on a vu que c'est au cœur de cette crise de l'exil que va se constituer vraiment une écriture hébraïque. On va s'organiser vraiment une écriture hébraïque. Celle que nous lisons aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Donc ça nous dit un petit peu, cette expérience-là nous dit, mais quel est le rôle de l'écriture ? Qu'est-ce que l'écriture d'abord ? Ben, l'écriture n'est pas d'abord toute la parole de Dieu. Si on dit ça, on tombe dans un fondamentalisme de l'écriture. Parce que si on dit ça, pourquoi y aurait-il besoin d'une relecture de ce qui a déjà été écrit, rassemblé, mémorisé ? Eh bien, l'écriture comprend cette relecture de l'histoire. À la fois, elle est issue du peuple de Dieu en relecture. Et là, c'est un bon exemple que cette crise de l'exil à Babylone, puisque c'est un exercice du peuple de Dieu qui doit relire, à partir de ce triple exercice que nous avons vu. Et elle va être ensuite la norme qui permet de relire l'histoire. On va relire l'histoire à partir de la notion d'alliance, par exemple. Et c'est dans ce rapport incessant entre Dieu qui se révèle et la rédaction de cette expérience de Dieu que se joue l'écriture. Hein, ce qui nous empêche de penser l'écriture d'un point de vue fondamentaliste, qui serait quelqu'un tiendrait un stylo, qui serait guidé de manière automatique par Dieu de don de ses ou. Donc on voit bien que se forge l'écriture dans cette relation de relecture, de réinterprétation, voilà, où Dieu est présent, où son esprit est présent. Où se joue un rapport entre une tradition orale et un écrit. L'écriture, c'est d'abord une tradition orale. Alors quand on dit une tradition orale, c'est à la fois en amont et en aval. En amont, l'écriture provient d'une transmission orale de l'expérience. Il y en a qui ont raconté l'expérience vécue. Il y a eu une communication d'un certain nombre de matériaux, comme on l'a vu, qui sont communiqués oralement ou scripturairement déjà. Voilà. Et en aval, aussi, le texte est interprété, commenté et actualisé. L'écriture est toujours soumise à son commentaire oral. J'ai fait un petit schéma, je suis allé trop loin. pour essayer de le comprendre. Hein. Voilà. Dans un premier temps, vous avez une expérience de Dieu. Quelqu'un qui fait l'expérience de Dieu. Il aurait fallu, entre deux, mettre plusieurs personnes. Voilà. Mais cette expérience, elle est transmise par oral à d'autres. Elle est communiquée. Elle devient écrite. Cet écrit, il est porté par l'Église. Au cœur de cet écrit se joue l'événement de Dieu. Alors l'événement par excellence, c'est la mort et la résurrection du Christ dans la Bible chrétienne. C'est à partir de cet événement que nous allons relire l'ensemble de l'Écriture. Puisque le Dieu Sauveur s'est manifesté d'une manière éminente dans cet événement de la croix et de la résurrection, il m'invite à relire toute l'histoire à partir de cet événement-là. Mais cette écriture relue, à l'aune de cet événement, doit toujours être interprétée. Et le magistère de l'Église est un interprète autorisé, on va dire, par excellence. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi l'écriture, si la parole de Dieu est d'abord de l'ordre d'une tradition orale. Si ça part d'une tradition orale et que ça va vers une tradition orale, pourquoi la médiation finalement d'un écrit au milieu? Mais parce que l'écrit c'est une objectivation. Et l'écrit instaure une distance. Celui dont on lit la lettre n'est pas là. On pourrait dire que c'est une présence dans l'absence. On a un petit peu oublié ça dans les relations interpersonnelles, parce qu'on écrit de moins en moins de lettres. On est dans la communication directe, mais quand on prenait le temps d'écrire une lettre, bah, celui qui lit la lettre, il est en présence de celui qui l'a écrit, mais à distance. Ça donne une liberté. Ça donne une liberté au lecteur, comme ça donne une liberté à l'auteur. La liberté, c'est quoi? C'est la liberté de l'interprétation. Vous êtes libre d'interpréter les propos de la lettre et de les faire vôtres. Et que si vous avez mal compris, peut-être que vous pouvez interroger l'auteur. Et donc l'écrit, c'est une objectivation, c'est une distance, mais qui garantit aussi une liberté. Dans la mesure où cet écrit est soumis à l'interprétation. Autre question, finalement, qui vient quand on pense le rapport à l'écriture, c'est bien sûr la question de l'inspiration. Puisque c'est une relecture de l'histoire du peuple à partir d'une tradition orale, d'une transmission de cette tradition orale et d'une relecture et d'une réinterprétation des événements, vous allez me dire, mais où est Dieu? Où est Dieu? Eh bien, on parle d'inspiration de l'écriture. Cette écriture est inspirée. On parle d'inspiration en vertu de, comme un charisme, en vertu duquel les livres de l'écriture furent écrits sous la motion surnaturelle de Dieu. Dieu a inspiré ceux qui écrivaient. dans l'histoire de, du rapport à l'écriture, on a ajouté à la notion d'inspiration de l'écriture celle d'inhérence. Comme une sorte de privilège d'être des écrits inspirés, d'être exempt de toute erreur formelle. Du fait que l'autorité divine en assume la cause principale, la responsabilité. C'est-à-dire que puisque Dieu est l'inspirateur de l'écriture, il ne peut pas se tromper, ni nous tromper. Mais cette notion d'inhérence a posé problème. A posé problème à quel moment ? Bien, au moment où on a commencé à développer des sciences historiques du texte. Et qu'on y a découvert justement des incohérences. Comment se fait-il que l'expérience qui nous est rapportée semble souffrir d'incohérences historiques ? Pourquoi est-ce que dans l'évangile de Marc, l'aveugle de Jéricho est guéri à la sortie de Jéricho, alors que dans Matthieu, il est guéri à l'entrée de Jéricho ? Qui se trompe ? Dieu ? Pourquoi, dans ce cas-là, y a-t-il quatre évangiles ? Donc cette notion d'inhérence de l'écriture, elle est compliquée. Il faudrait plutôt dire que l'écriture nous conduit avec assurance vers le salut. S'il y a une écriture, si nous avons un rapport à la révélation de Dieu par le biais de l'écriture, c'est parce que l'écriture nous conduit avec assurance vers le salut. C'est ce que l'Épître à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, cherche à faire comprendre. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. C'est pas pour rien. Et la finale de l'évangile de Jean nous confirme cela. Hein. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les Écritures ont un pouvoir. Elles ne sont pas là simplement pour transmettre un savoir. Elles veulent nous faire entrer dans le projet même de Dieu, qui est un projet de salut. Et à nous y faire entrer dès maintenant. Par la réponse d'amour que nous pouvons faire à ce projet de Dieu. C'est parce qu'elles ont un caractère inspirant, parce qu'elles inspirent nos vies de chaque jour, qu'elles peuvent être dites inspirées. Quand on dit donc que l'écriture est inspirée, on parle d'une sorte de qualité permanente de l'écriture en tant qu'elle est la médiation autorisée de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Dans la mesure où sa lettre, la lettre de l'écriture, est l'instrument de l'esprit. Ce n'est donc pas une dictée de Dieu à l'homme. Vous voyez, c'était un petit excursus dans le cours sur le statut et le rôle de l'écriture. Hein. Parce que c'est au milieu de la crise et de la relecture de cette crise que le peuple d'Israël vit que l'écriture va être composée, va être organisée, va être restructurée Et ça nous dit bien le rôle de l'écriture, pour que vous ayez la vie en son nom. Je passe à la deuxième partie. Une fois que nous avons vu cette expérience de relecture au milieu d'une crise, nous pouvons nous interroger sur qu'est-ce que croire vraiment. Qu'est-ce que croire vraiment ? Bien, la foi se trouve à la croisée, à la rencontre d'un « je » et d'un « tu » capable d'entrer en dialogue. On l'a vu dans le livre d'Isaïe, une rencontre personnelle avec Dieu. Un « je » et un « tu » capable d'entrer en dialogue dans une attitude d'écoute et de réponse. C'est ce qui structure, on peut dire, la foi. La foi, c'est la capacité d'un dialogue entre un « je » et un « tu », entre une écoute et une réponse. Mais cet acte est à réévaluer sans cesse. Parce qu'on risque d'en faire un tel automatisme que on risque de perdre cette qualité profonde de la foi. Si vous étiez né en 1947, ou si vous êtes proche de ces années, ou né jusqu'au début des années 70 peut-être, à la question « qu'est-ce que la foi ?», vous auriez peut-être pu être tenté de répondre par l'acte de foi appris au catéchisme. L'acte de foi de 1947, vous l'avez sous les yeux, est formulé ainsi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous enseignez par votre Église, parce que c'est vous, la vérité même, qui les lui avez révélées, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Loin de moi l'idée de dire que cette formulation serait fausse ou obsolète, mais un individu en 2020 pourrait légitimement se poser des questions par rapport à cette formulation. Sans l'idée de jugement anachronique de l'histoire. Mais en tout cas, on peut poser un certain nombre de questions. Alors là, je vous ai mis un... Voilà, pardon, on va faire un retour en arrière. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. La première question qu'on peut poser à cette formule, à cet acte de foi, c'est pourquoi fermement ? Mon Dieu, je crois fermement. On pourrait se dire, je crois ou je ne crois pas. Quand on dit fermement, croire apparaît alors comme ne pas savoir très bien. Je suis pas très sûr, alors il faut plutôt que je dise fermement, parce que voilà, ça va me donner une sorte d'assurance que je manque... qu'il me manque en moi-même, peut-être. Voilà. Or, la foi, on pourrait se dire, c'est je crois ou je ne crois pas. Quand Dieu invite Abraham à partir de son pays, à quitter et à aller vers un pays qu'il lui montrera, Abraham part. Il y va, quoi. Croire fermement toutes les vérités. Là, on peut aussi se poser la question. Croire, est-ce que c'est adhérer à un certain nombre de vérités ou de formules ? Ou est-ce que croire, c'est adhérer à quelqu'un ? Pourquoi les vérités ? Y a-t-il des vérités ou une vérité ? Dieu lui-même. Que vous nous enseignez par votre Église. Le rôle dévolu à l'Église ici est proche, risque d'être proche d'un contrôleur de formule. de bonnes formules. Est-ce que c'est le rôle de l'Église d'être un contrôleur des bonnes formules? Ou est-ce que l'Église n'est pas le milieu natif et porteur de la foi? Parce que c'est vous, la vérité même, qui les lui avez révélée et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Une sorte de motif de crédibilité que l'on donne. Dieu ne peut pas se tromper. Ce motif de crédibilité s'oppose aux Lumières et en particulier à Descartes, avec son hypothèse d'un malin génie, un Dieu trompeur. Et du coup, qui invite à un doute cartésien. Ça se trouve, tout ce qu'on me dit, finalement, c'est une tromperie. Il faut que je puisse en juger par moi-même. Jusqu'en 1947, on disait, mais non, mais de toute façon, c'est Dieu, donc ça peut pas. Ça peut pas te tromper. Alors ça pose le motif de crédibilité de la foi. Qu'est-ce qui rend la foi crédible? Qu'est-ce qui rend la foi crédible? Eh bien, ultimement, n'est-ce pas l'amour seul digne de foi? D'un amour qui m'est accordé et auquel je peux répondre. Et que je vérifie dans ma propre vie comme capable de me donner la force d'aimer moi aussi. Alors je vous propose une réévaluation d'une telle formule. Pour montrer que l'acte de foi n'est pas un acte partiel de la volonté, mais un acte de tout l'être. Et que croire est un acte libre et raisonnable, qui même s'il produit ses raisons, j'ai des raisons de croire, montre aussi que la raison ne suffit pas à l'expliquer. Je fais le saut de la foi, de la confiance. Et que ce saut de la foi, il n'est pas simplement soumis à une autorité extérieure, celle de l'Église, mais que c'est le saut que moi je pose. Et que ce sceau, il est approprié aussi à ma condition historique. Je reconnais la présence de l'Éternel dans le temps, dans l'histoire. Qu'il me fait devenir plus humain. Où je découvre que dans mon histoire, il y a plus que mon histoire. Je vous propose alors cette autre formulation. La foi ne serait-elle pas oser maintenir ouverte la question de Dieu comme décisive pour l'existence? D'abord, oser. Il y a une décision à prendre. C'est audacieux la foi. C'est audacieux de répondre à une proposition d'alliance. Abraham est un être audacieux. Pierre et ses compagnons sont des êtres audacieux. Ils ont dû prendre une décision. Ah, cette proposition, viens, suis-moi. Maintenir ouverte, c'est le contraire du fanatisme. Cela implique qu'on n'a pas une idée arrêtée de Dieu. Et qu'on a sans cesse à évangéliser nos idées sur Dieu. Je ne suis pas propriétaire de la vérité. Je me laisse posséder par la vérité. Je ne la possède pas. Ça peut être aussi, à l'inverse du fanatisme, le contraire aussi de l'attitude des sciences humaines qui croient avoir résolu la question de Dieu. Question du passé. Question close pour certains. Question associée à la violence pour d'autres. Maintenir ouverte. Oser maintenir ouverte. La question de Dieu maintenant. On va tout à l'heure approfondir cela, mais la question de Dieu, c'est pas la question que nous posons sur Dieu. C'est la question que Dieu nous pose. Et je pense qu'il faut envisager le livre des Écritures, non pas comme un livre de réponse à nos questions, mais comme un livre des questions que Dieu nous pose. Pour susciter une réponse de notre part. Essayons d'inverser notre rapport, le rapport que nous avons peut-être trop souvent aux Écritures, où nous cherchons des réponses aux questions que nous nous posons. Est-ce que nous sommes capables d'abord de laisser Dieu nous poser des questions? Questions qui supposent ou suscitent des réponses de notre part. Et nous allons, dans la troisième partie de cet exposé, de ce jour, envisager ces questions de Dieu. Quelques questions fondamentales que Dieu nous pose. Oser maintenir ouverte la question de Dieu comme décisive pour l'existence. C'est capable de changer la vie. Individuelle et collective. C'est pas une activité partielle. C'est pas une partie de ma vie. C'est pas ma raison contre mes sentiments. C'est pas mon intelligence contre mes émotions. Ça change l'ensemble de l'être. De l'être individuel et bien sûr de l'être en relation. Oser maintenir ouverte la question de Dieu comme décisive pour l'existence. Ça suppose, c'est mon petit B de cette deuxième partie, de croire vraiment que je prends au sérieux la révélation comme fondement de l'acte de foi. Bien sûr qu'on pourrait se dire que d'un côté, ça dépend d'un acte humain. Mon audace, oser maintenir, c'est moi. J'ai l'audace de maintenir ouverte la question de Dieu. Mais est-ce que, au départ, il n'y a pas d'abord la révélation de Dieu lui-même comme fondement de cet acte? C'est-à-dire que la foi est plus du côté de la réponse que du côté de l'initiative. L'initiative, c'est Dieu qui l'a prise. C'est Dieu lui-même C'est Dieu lui-même qui nous invite à nous en remettre à lui, à nous en remettre à ce qui nous dépasse et qui nous invite à nous dépasser nous-mêmes. Elle est de l'ordre de la réponse à un appel. Il faut à un moment donné s'en remettre, il est vrai, à l'autorité du Dieu révélateur. Viens, suis-moi. Troisième partie, prendre au sérieux la triple question de Dieu. Comme je le disais à l'instant, la foi consiste bien plus à laisser résonner la question de Dieu pour y apporter une réponse qu'à poser une affirmation sur Dieu. Une telle affirmation constituerait le risque d'une projection humaine sur Dieu. Et on l'a vu même dans l'histoire du peuple d'Israël. Leur Dieu était presque à l'image de leur projection humaine. Ils avaient besoin d'un protecteur de la nation. Ils ont introduit le Dieu Yahvé dans le temple de Jérusalem, parce que ce protecteur de la nation semblait peut-être à un moment donné plus sérieux que le Dieu Shamash. Et il faut passer de cette projection humaine à l'acceptation de la question que Dieu pose lui-même. Et au cœur même de la révélation de Dieu, on peut distinguer trois grandes questions, il me semble, que Dieu pose à différents moments, mais je le prends dans un certain ordre, parce qu'elles me paraissent... un ordre important, même si chronologiquement elles n'apparaissent pas dans la révélation à cet ordre-là. Première question, mais pour vous, qui suis-je ? Pour vous, qui suis-je ? Je reviens au texte, voilà. Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Une question qui est posée au cours d'un itinéraire de salut dans l'histoire concrète. Les disciples sont en chemin vers Jérusalem. Jérusalem, le lieu où Jésus a annoncé qu'il doit mourir pour ressusciter. La question est posée au milieu d'un itinéraire. Une question posée à ceux qui ont déjà entamé un chemin avec celui qui la pose. Il y a déjà une fréquentation, il y a déjà une connaissance. Et à un moment donné, étant donné qu'il y a déjà une fréquentation, eh bien la question peut résonner. Hein, c'est la réponse de Pascal à un incroyant, hein, du philosophe Pascal, hein, qui dit « Mais fais comme si tu étais croyant. Vas-y, va dans une église, prends de l'eau bénite, fais le signe de croix, va t'agenouiller, fais d'abord comme si tu étais croyant. » Pourquoi il lui dit ça ? Parce que faire l'expérience de Dieu, ça suppose déjà d'avoir commencé à mettre en place quelques moyens de cette relation. Et les disciples ont déjà entamer une relation, il commence déjà à marcher avec lui sur la route de Jérusalem, et c'est là que la question peut se poser. Mais chapitre 8, sachant que l'évangile de Marc en compte 16, donc on est en plein milieu de l'itinéraire. Une question qui semble engager la suite du chemin. Si Jésus pose cette question à ce moment-là, pour vous, qui suis-je, c'est que à la réponse à la question, la réponse à cette question va entraîner le type de suite du chemin. Et d'ailleurs, tout le chapitre 9 et 10 de l'évangile de Marc est construit sur toutes les difficultés qu'il y a à suivre le Christ. Par exemple, vous avez le récit du jeune homme riche qui repart parce qu'il avait de grands biens. Donc cette question, elle suppose la suite. Une question qui est de l'ordre d'un discernement au milieu d'autres personnes qui disent Dieu. Mais qui est-il vraiment parmi d'autres qui, parmi Jean-Baptiste, Élie, hein, au dire des gens. Là, il s'agit d'opérer un discernement parmi ces opinions. Une question qui ne demande pas dans un premier temps une annonce publique, mais un choix, une décision, celle d'aller jusqu'à Jérusalem. Ce qui est important, c'est pas d'aller tout de suite dire « ça y est, nous avons rencontré le Christ hein, ». C'est ce qu'on appelle dans l'évangile de Marc le motif du secret messianique. Hein, Jésus impose le secret. Il l'impose au début de l'évangile aux démons, qui disent « tu es le Saint de Dieu ». Il l'impose aux lépreux qui sont guéris. Et là, il l'impose à ses propres disciples. Il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Parce que ce qui est important, c'est le choix qu'eux vont faire de le suivre. C'est ça l'important dans un premier temps. Enfin, une question posée à un nous, ou à un vous plutôt, on devrait dire, mais qui suscite une réponse personnelle au milieu de ce groupe. C'est-à-dire que la question, elle est posée à tous, à l'ensemble du groupe, mais chacun doit se positionner. Et le premier qui se positionne là dans le groupe, c'est Pierre, qui entraîne les autres par sa réponse personnelle. Tu es le Christ. Hein, prendre au sérieux que la question que Dieu nous pose, pour vous, qui suis-je ? Deuxième question corrélative, on pourrait dire, hein, qu'as-tu fait de ton frère ? C'est la question que pose Dieu à Caïn. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. » Je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Deuxième question que Dieu pose, hein, qu'as-tu fait de ton frère? Une question que Dieu pose à la conscience de l'homme. Je vous rappelle que la conscience, hein, c'est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Une question donc que Dieu pose à la conscience de l'homme, où se joue directement le discernement du bien et du mal. Car au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Fais le bien, évite le mal. Une question à laquelle l'homme ne peut ultimement se dérober. Cette question, elle est toujours posée à la conscience. Une question qui invite à regarder l'autre créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En cela qu'il est un frère. Une question qui montre le souci permanent de Dieu pour sa création. Et une question qui montre un Dieu qui ne veut pas laisser l'homme à sa violence. Donc d'un Dieu qui accompagne, qui conduit sur des chemins de vie. Enfin, j'en rajouterai une troisième à ces deux, hein, qu'as-tu fait de ton qui suis-je pour vous et qu'as-tu fait de ton frère, qui est la question où es-tu? Question que l'on retrouve dans le chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme: pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu donc? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Le Seigneur reprit: qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Où es-tu donc? Une question qui pose la responsabilité de l'homme dans la création de Dieu. Qu'as-tu fait de la création? Une question qui pose la question de l'usage de la liberté de l'homme. Qu'as-tu fait de la liberté que je t'avais donnée? Une question aussi qui envisage l'homme comme partenaire de la création. Et non pas quelqu'un à qui on montrerait des choses sans qu'il puisse les toucher. Et enfin, une question qui invite à retrouver la pleine condition humaine. Où es-tu, homme? Adam? Où est ta condition d'homme? Cette condition qui... dans ta nudité même, peut se révéler, vraiment. Troisième question de Dieu, donc, où es-tu? Où es-tu? Je pense que cette question, elle se pose aujourd'hui, peut-être aussi par rapport, enfin, se repose hein, dans un contexte de responsabilité de l'homme par rapport à la création de Dieu, dans le contexte de crise écologique que nous pouvons vivre. Ce parcours nous montre quoi? Ce que nous avons voulu faire finalement aujourd'hui. Nous sommes partis d'un moment de crise. Et c'est dans ce moment de crise spirituelle, qui était une crise spirituelle, nous l'avons vu dans le psaume 136 que nous avons lu tout à l'heure, c'est au moment de cette crise spirituelle que le peuple d'Israël peut retrouver, ou peut trouver d'une certaine manière, le vrai Dieu de l'Alliance, et peut poser l'acte de foi. Croire enfin, croire vraiment, croire en qui? Croire en ce Dieu qui veut faire alliance avec l'homme en suscitant une réponse aux questions qu'il lui pose. Et nous allons continuer justement ce parcours en voyant le type de réponse que l'homme est invité à poser et la réponse que Dieu lui-même a montrée à l'homme en nous envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Voilà, nous avons fini notre parcours pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interventions par rapport à tout cela?